de Carmen que dirigeait Carlos Kleiber. J'avais été fasciné par l'orchestre, le son de l'orchestre, le nombre de ses musiciens, par les robes froufroutantes des chanteuses et l'érotisme brûlant des danses, mais terriblement choqué par l'horrible phonétique française de ces déesses. Las, au lieu d'un excitant accent espagnol, Carmen était russe et Michaela allemande. Elle disait aux soldats « Non, non, je reviendrai ». Ce qui me semblait, quel âge pouvais-je avoir, 12 ans peut-être, absolument tordant. Je m'attendais à un opéra français situé dans l'Espagne sauvage, et je ne comprenais absolument rien, ni au dialogue parlé, ni aux arias, prononcés dans une sorte de sabir martien, dont j'ignorais qu'il était malheureusement celui de l'opéra d'aujourd'hui. Sur scène, c'était un gigantesque tohu-bohu bondissant. Des gitanes, des militaires, des ânes, des chevaux, de la paille, des couteaux. On s'attendait à voir sortir des coulisses un vrai taureau qu'Escamillo, russe lui aussi, aurait achevé sur place. Kleiber bondissait à son pupitre pour essayer de faire jouer l'orchestre plus fort, toujours plus fort, avec des accents si outrés que même les ânes, les chevaux, les cuisses sous les robes et les seins dans les décolletés paraissaient une sage parade de village. Les triangles frappaient à s'en démettre l'épaule. Les cuivres soufflaient si puissamment qu'ils faisaient voler les cheveux des violonistes et les jupons des cigarières. Les cordes couvraient les voix des chanteurs, obligés de beugler comme des baudets ou des juments pour se faire entendre, perdant toute nuance. Seul le cœur des enfants, avec la garde montante, etc., paraissaient s'amuser de cette emphase, gueulant eux aussi à qui mieux mieux en brandissant leurs armes de bois. Il y avait tellement de monde sur scène qu'on se demandait comment on pouvait s'y mouvoir sans tomber dans la fosse d'orchestre. Des chapeaux, des toques, des bonnets, des roses dans les coiffures, des ombrelles, des fusils, une masse, un magma de vie et de musique, une confusion sans limite. Renforcé dans ma mémoire, mais la mémoire exagère toujours, par l'addiction des acteurs, renvoyant le texte à des borborygmes. Heureusement que ma mère, patiemment, m'avait raconté auparavant l'histoire funeste de l'amour de Don José pour Carmen. Je me rappelle parfaitement ma question. Mais pourquoi est-ce qu'il la tue? Pourquoi tuer l'objet de son amour? S'il l'aime, pourquoi la poignarder? Et s'il ne l'aime plus, s'il a épousé Michaela, comment peut-il ressentir encore suffisamment de haine pour la tuer? Cette histoire me paraissait hautement improbable. Il me semblait très étrange que Michaela, seule, réussisse à découvrir le repère des contrebandiers dans la montagne, alors que la police n'y parvenait pas. Je ne comprenais pas non plus pourquoi, à la fin du premier acte, Don José laissait Carmen échapper à la prison alors qu'il la connaissait à peine. Elle avait balafré d'un coup de couteau une pauvre jeune fille tout de même. Don José n'avait-il aucun sens de la justice? Était-il déjà un assassin en puissance? Ma mère soupirait que je ne comprenais rien à la force de l'amour. Heureusement, l'exubérance kleibérienne me permit d'oublier le récit et de me concentrer sur les corps de ces femmes dansant sur scène, sur leurs vêtements et leurs poses suggestives, sur la séduction lascive de leur danse. Les bohémiennes sont une histoire de passion. Depuis la petite gitane de Cervantes, les tziganes ont représenté en Europe une altérité de désir et de violence, un mythe de liberté et de voyage, jusque dans la musique. Par les personnages qu'ils fournissent aux opéras, mais aussi par les mélodies et les rythmes. Franz Liszt décrit, dans son « Des bohémiens et de leur musique en Hongrie », après une sinistre introduction antisémite de 90 pages consacrée aux juifs dans l'art et la musique, toujours les absurdes arguments wagnériens. Dissimulation, cosmopolitisme, absence de création, de génie, au profit de l'imitation et du talent. Bach et Beethoven, génie, contre